ואז יש את הבום.
Et après commencent les bombardements. On se couche par terre. Moi, Itaï, on se tient les mains comme ça. Moi, je lui tiens la main. C'est lui ou c'est toi? Non, c'est Itaï. Et tu avais besoin d'Itaï ou t'avais besoin de moi? Non, Itaï. Combien vous restez comme ça? Oh, je sais pas. Je pense même qu'on s'est endormi comme ça. En vous tenant les mains, ouais. Ouais. Après, disons, trois jours, sont arrivés deux terroristes. Ils nous ont dit, on vous amène à l'hôpital. Et qu'on irait la nuit. On arrive dans un nouvel endroit, on était un peu choqués. Et c'est un nouveau jour. Et là, tu vois cette table au milieu de la chambre. J'ai commencé un peu à nettoyer. Après, quand j'ai fini de nettoyer, je me couche sur le lit, sur ce matelas qui était par terre. J'ai les mains derrière la tête. Et tout d'un coup, j'entends... Une explosion folle. Tout le bâtiment tout simplement s'est effondré. À ce moment-là, je pense que c'est la fin. Parce que le bâtiment, il n'y a plus rien qui reste. Il va me tomber dessus. Il y a la poussière qui commence à monter. Waouh. Et juste à nettoyer. Ouais, j'ai juste nettoyé. Après 10 minutes, la porte s'ouvre. On est un terroriste plein de poussière, me dit Asharabad. À chaque explosion, ils font comme ça, avec les doigts, ils claquent des doigts.
Asharabad.
On avait démoli 10 maisons. Enfin, Et il m'amène dans une maison où il y avait une télévision. Et un jour, je regarde la télé, la porte était ouverte et je vois la télé. Il y avait sur Al Jazeera un discours de Netanyahu. Et j'ai dit à Itaï, viens, va écouter. Et j'ai entendu que Netanyahu a dit qu'il avait un objectif, c'était détruire le Hamas. Et il n'a pas parlé des otages. Comme si il n'a pas dit genre on va tous les ramener à la maison. Il n'a pas dit il y a des négociations, rien. Et quand ça s'est fini, j'ai regardé Itaï m'a dit qu'est-ce qu'il a dit. J'ai dit à mon frère, il a dit qu'il va nous ramener à la maison. Et là, je commence à penser à mes parents, à ma famille, toute cette souffrance dans laquelle ils doivent être. Est-ce qu'ils se disent? Prends-moi, moi et mon frère. Donc là, on entend la maman dans un discours sur la place des otages. Maintenant, c'est sa sœur qu'on entend. Omer, c'est notre ami. Ce qu'il aime, c'est être au bord de la mer. Je suis sûr qu'il accepte ça avec beaucoup de force. C'est sa sœur. C'est pendant une manifestation. Lui, il est otage. Et elle manifeste à Tel Aviv. Il chante dans la douche, Omer. Et tout le temps il chante. Et moi tout le temps je lui dis, mais tais-toi, ferme-la. Et maintenant j'ai tellement envie d'entendre chanter dans la douche. Il nous manque tellement. Il nous fait toujours rire. On a vraiment... Il nous manque, mais on sait qu'il va revenir. Et qu'on va tous rentrer à la maison. Et voilà, Omer revient à l'interview. Voilà un homme qui vient, il nous dit « Shabbat prochain, vous rentrez à la maison ». Je suis tellement content. Ah, wow. Et on arrive le jeudi. Il revient et nous dit « Écoutez, finalement, ça sera que les femmes et les enfants qui seront libérés. Et vous rentrez pas à la maison ». Mais on était très contents. Très très content. Je regarde Itaï, je sais qu'il a 18 ans, et je demande alors Itaï, il a 18 ans, il a pas fait l'armée. Alors il lui dit, je vais vérifier, je sais pas si tu sors. Après il y a un terroriste qui vient dans l'appart, et il nous dit, on vous sépare. Demain, on repart en guerre. Et voilà, chacun sera seul. C'était l'un des pires moments pour nous. Notre plus grande peur, c'était d'être séparés. Quelqu'un avec qui tu peux parler. Et il nous a dit, Itaï va venir avec moi. Et toi, tu vas rester ici. Moi, j'avais déjà le sentiment que Itaï rentrait à la maison. Oui, je le sentais. Il rentrait. Tu lui as dit ? Non, je lui ai pas dit. Je lui ai dit, Itaï, tout va bien. Je sais que je vais te retrouver dans quelques jours. On va se rencontrer. On s'est embrassés. Et il est parti. Il est descendu avec lui. Et moi, je regarde de loin. Son frère s'en va dans la voiture de la Croix-Rouge. Et sa sœur dit, vraiment, pour moi, c'est pas bien, c'est pas agréable que je rentre à la maison et que Omer reste. Là, on les voit arriver au moment de sur la petite place où on libère les otages. Je pense à Omer tous les jours, chaque seconde. Et qu'est-ce qui passe dans ma tête à ce moment-là? Et de nouveau, on entend sa sœur qui parle. On fera tout pour qu'il rentre à la maison. Si tu savais que tu rentrais à la maison, j'aurais pu te dire que moi, j'aurais pas accepté de partir sans mon frère. Tu te souviens de ce premier jour sans Itaï? Ouais. Tout d'un coup, un silence dans l'appart. Là, on commençait les angoisses, les craintes, le sentiment de solitude. Et bien, ma maman, je sens que je commence à devenir fou. Et arrive dans une nuit, arrive, je vois la porte qui s'ouvre, je me réveille. Il me dit Yallah. Prends tes affaires et viens. Je lui dis, je rentre à la maison. Il me dit, nanana. En bas. Tu vas en bas. Je vais descendre en bas. On marche sous la terre pendant à peu près 50 minutes. Et on arrive à une espèce de... local comme ça, sous terre. Ils ont ouvert la porte, ils m'ont jeté. Ils ont ouvert cette cellule, c'est une cellule. Et ils l'ont fermé. J'arrivais pas à respirer, j'avais de l'asthme. Je leur ai dit, j'ai de l'asthme. J'ai réussi à expliquer, j'ai demandé à un médecin. J'ai dit, j'ai de l'asthme, je peux pas rester ici. Je peux pas respirer. Et donnez-moi. Il t'a permis d'avoir le truc contre l'AMS combien de temps? Il me dit 2 heures par jour. Après, il enlève la prise. Par exemple, quand je mangeais, je l'éteignais. Entre les repas, t'es dans le noir complet. Rien. J'ai ouvert uniquement pour voir que je vois encore. Et comment passe le temps? Mais quand tu dors, tu rêves à la maison, tu rêves à la famille, tu rêves aux amis. À Itaï et à Maher. Alors tu essaies de te sauver de ces rêves, parce que c'est insupportable. Et pendant les 45 jours où j'étais sous le sol, le soleil, c'est une des choses qui m'ont le plus manqué. Une fois, ils m'ont amené à un feutre et j'ai commencé à dessiner sur le mur. Alors j'ai fait une plage avec un soleil et comme si moi j'étais assis sur cette plage. Tu sais, avec des vagues comme ça et un chômage. Et une plage de sable. Voilà. Le kiff. Deux jours après, est rentré un autre. Il regarde mon dessin et il commence à l'effacer. Comment tu manges? Au début, c'était deux pitas par jour, de l'eau, de l'eau salée. Et puis avec le temps qui passe, il y a de moins en moins. Après c'est une pita et demie, après une demi-pita. T'es faible? Très. J'étais vraiment maigre. Je regardais les os, on voyait mes épaules. Et t'es arrivé à un moment où... Il ne me restait plus qu'un biscuit par jour et un peu d'eau. Pour toute une journée, tu te lèves le matin, tu regardes ton biscuit, et non, je vais pas le manger, pas tout de suite. Alors tu attends 2 heures, 3 heures, et après tu prends la moitié du biscuit, la moitié, oui.
Wow.
Je ne peux pas te dire vraiment quel sentiment. Quand tu rentres ton biscuit dans ta bouche, c'est un sentiment divin. C'est une situation difficile, c'est un moment de dépression, mais jamais s'est éteinte en moi la lueur d'espoir durant toute cette période. Je m'assoyais et je parlais tout simplement avec Dieu. Tu faisais un dialogue avec Dieu? Il y a toujours ce moment où tout le monde demande. Lui demande. Alors moi je commençais toujours par bonjour papa, tu vas bien? Comment tu te sens? Et après je remerciais. Je disais merci. Merci que je suis encore en vie. Merci pour la nourriture, le peu que j'ai. Tout ce que j'ai. Je commence bien et je remercie après. Toujours. Et maintenant, si déjà t'es là, est-ce que je peux te demander quelque chose, s'il te plaît? Papa, s'il te plaît, mets-moi dans le bon chemin. Aide-moi à rentrer à la maison en paix. Montre-moi. Aide-moi, renforce-moi. Garde ma famille. Et une nuit, quelqu'un est arrivé, l'un d'entre eux. Il ouvre la cellule. Il me dit, prends tes affaires. Et on commence à partir. On marche. Et tout d'un coup, on arrive dans une chambre grande. De mon point de vue, c'est le paradis des tunnels. Et là, ça fait déjà 400 jours que je suis là. J'étais sale, je transpirais. J'ai pris une douche pour la première fois depuis 50 jours. Tout le temps que dans, que, non, tout le temps que t'es dans le petit tunnel, tu te douches pas. Alors on commence, mais vraiment, la crasse est telle sur le devant, sur le cou, c'est noir, mais noir, mais comme du charbon, vraiment. Puis après, ils m'ont proposé à manger. Je me suis assis pour manger avec eux. J'étais mort de faim. Ah ouais. Ils me regardent pendant que je mange et je les entends qui parlent. Sale porc. Sale juif, sale porc. Et je mange. Après, ils m'ont laissé sur la chaise. Ils commencent les questions. Qui tu es? D'où tu viens? Tu étais à l'armée? Tu n'étais pas dans l'armée? Tu es un soldat? J'ai dit, je ne suis pas soldat. J'ai fini l'armée. J'ai fini, je ne suis pas soldat. Alors, ils me disent, demain, on va te faire une enquête. Si tu dis la vérité, on agira bien. Si tu ne dis pas la vérité, on n'agira pas bien par rapport à toi. Et ça fait peur. Y'a pas à dire, ça fait peur, ça fait très peur. Tu veux pas commencer à te faire frapper, tu n'aimes pas. Et cette nuit, ça allait rentrer dans le quartier. Il y a eu d'abord l'aviation. Tu sais, il y a. Quand ils bombardent les maisons. Je sais pas comment expliquer. Et après les bombardements, arrivent les tanks. Vraiment les tanks. Comme ça. Sur la tête, sur ma tête. Et après que Tzal est rentré dans le secteur, ils avaient plus le temps de s'occuper de moi. Alors ils ont oublié l'histoire de l'enquête. Mais tout ce temps, ils agissaient avec moi très mal, ils me crachaient dessus, ils m'insultaient, charmout, pute, bâtard. Il y a un moment où tu penses à t'évader? Bien sûr, bien sûr. Il y a un moment où j'ai dit, écoute, Tzal est là, c'est le moment de fuir. C'était la nuit, tout le monde dormait. Et moi, je me suis dit, aujourd'hui je m'en vais, je fuis. Je regarde sur les côtés, je regarde qui réagit, personne ne réagit. Je me lève sur mes jambes. Le cœur, je te dis pas, bah, 100 000. Quoi. Je fais un petit tour dans la chambre. Aucune réaction de personne. Je vais prendre une Kalachnikov. Parce que je m'étais dit, ok, si je veux m'enfuir, il faut que je les tue. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'autre moyen de sortir. Les tuer et s'enfuir. Mais où? Alors, c'était ça mon problème. Vers où? Si je sors en haut, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'arriverai à fuir une fois que je serai dehors? Alors, j'ai pris leurs armes. Je l'ai pris dans la main. Dans mes mains, une peur indescriptible. Je tiens comme ça, là. Je regarde comme ça sur les côtés. Et tout simplement, je repose l'arme de là où elle était. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Moi, je pense que c'est la peur qui m'arrête, que j'y arrive pas. Un jour on mangeait et je leur ai dit, vous inquiétez pas, c'est moi qui vais ranger, je vais ranger. Puis alors j'ai commencé à ranger dans la cuisine. Il m'a dit, il y avait quelqu'un qui devait faire la vaisselle, j'ai dit, je vais faire la vaisselle. Et on a passé une espèce d'accord comme ça, non écrit. Moi je vais faire, vous, juste vous soyez sympa avec moi. Et vraiment, tout le temps. En fait, j'étais dans la cuisine toute la journée. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je nettoie. Je fais à manger. Je range. Je leur amène à manger. Tout, 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 tout. Tu commences à t'approcher d'eux? Oui. Il y en avait un qui était le commandant de l'endroit. Et mon objectif, c'était de créer un lien avec lui. Je le fais rire, je parle avec lui. Je lui donne le meilleur du manger, tout, tout, tout. Vraiment. Qu'est-ce qui le faisait rire?
Et
il m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton rêve. J'ai dit moi je vais être acteur. Alors ils m'ont dit alors vas-y, fais un jeu d'acteur. J'ai dit mais quel jeu d'acteur je vais faire, quoi. Alors il m'a dit imite-moi. Je lui ai dit je vais t'imiter, mais attends, s'il te plaît, on rigole. Et je l'ai fait 100%. Ouais, les gestes, tout. La façon qu'il a de marcher, la façon qu'il a de parler. Il marchait comme ça avec les mains. Comme ça, tout, tout, tout. Et il a adoré. Et c'est là qu'on a créé le lien. Et c'est ça qui m'a sauvé. À un point, c'est moi qui tenais l'endroit. L'endroit. Quand il n'y avait pas d'électricité, c'est moi qui trouvais l'électricité. Quand il n'y avait pas d'eau, c'est moi qui trouvais l'eau. C'est moi qui dirigeais l'endroit. Et puis est arrivé quelqu'un. Et il est arrivé avec des sacs à ordures. Avec des sacs de poubelles, des sacs poubelles. Ils jettent tout par terre. Et alors là, plein, mais plein d'argent. Franchement, je pense qu'il y avait au moins 3 millions de shekels. Des dollars et des shekels. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Mais on fait les enveloppes, on fait les salaires. Ils vous ont demandé des aides? Ouais. Alors t'es là-bas, dans un tunnel, et tu fais les salaires pour... Oui, et je fais les salaires des gens du Hamas. Ouais. Mais ça va les aider à faire la guerre. Oui, ils me l'ont dit ça. Ils m'ont dit un jour, ils avaient mis des pièges, en fait, dans la maison qui est au-dessus de notre tunnel. Et ils m'ont dit, écoute, quand les soldats israéliens vont venir, tu fais tout exploser. Et je leur ai dit, non. Non, ça n'arrivera pas. Ils m'ont dit, comment ça ne va pas arriver? J'ai dit, non, je ne vais pas faire ça. Ils m'ont dit, mais si tu ne fais pas ça, alors je te tire une balle dans la tête. Alors j'ai dit, bah tiens-moi une balle dans la tête. Non, moi je ne vais pas faire exploser les soldats. Ça n'arrivera pas. Et après est arrivée une télé. Un Shabbat, j'attendais les manifestations du Shabbat. Tu cherches ton visage dans les manifs? Et tu trouves? Non. Qu'est-ce que ça fait?
Waouh. Caché.
C'est vraiment dur. Tellement dur.
Vraiment,
je me souviens aussi que je rêvais la nuit, que je rentre à la maison, et je crie à mes parents. Mais où vous êtes? Où vous étiez? Et là, on entend dans le reportage que c'est pas vrai. On entend son père qui crie dans un immense... je sais pas comment on appelle ça. Et en fait, il crie avec un micro vers Gaza pour dire « Omer, Omer, reviens, reviens, Omer, on est en Israël de l'autre côté. Omer, Omer !» Et là maintenant, c'est les informations qui parlent du retour de 6 corps d'otages qui ont été assassinés cruellement, juste avant que les soldats arrivent. Sa mère maintenant parle. Mon cœur est brisé. Non, la mère d'un de ceux qui a été ramené mort. Non, la mère de Itay Omer. Ramène-les, Bibi. Ramène-les, Bibi. Ramène-les. Il n'y a pas de Philadelphie, de Netzarim, il n'y a pas rien, tout ça. Ramène-les. On n'a plus de force. À un moment, arrive quelqu'un, il prend le téléphone, il me montre des photos, des manifs. Et je vois ma famille dans les manifestations. Il y a une photo de mes parents, ils sont debout, avec un fond marron. Et une photo, ils tiennent une photo de moi, et ils étaient détruits. Je regarde la photo. J'ai dit, c'est pas mes parents. C'est pas mes parents. Ils sont détruits. Alors ils me regardent et ils me disent, ils voulaient se moquer un peu. Ouais, tes parents sont vieux. Je leur ai dit, non, ils sont pas vieux. Ils sont tristes.
«
These are the 33 Israeli captives expected to be released by Hamas in phase one of the Gaza ceasefire deal.